Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Mathieu. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Avec plaisir.
Donc, tu as créé Ville de Cœur, anciennement Erasmus,
C'est ça.
avec Yann. C'était en 2015.
C'est ça.
Et maintenant, vous avez aussi le tissu social.
Ouais, l'atelier qui s'appelle le tissu social et du coup la marque qui s'appelle Ville de Cœur.
Alors, moi, je vous ai connu par les réseaux sociaux et surtout par un pote. Je t'avais raconté, qui est allé à l'Anticafé, genre il y a 3 ans, mais c'est peut-être il y a 4 ans. Et en fait, justement, vous vouliez changer de concept par rapport à votre marque de t-shirt, parce que il y avait un problème de base. C'est que votre idée, c'était quoi?
En fait, ouais, on avait déjà changé à ce moment-là. On a changé en 2015, au bout de 3-4 mois. En fait, à la base, la marque s'appelait Erasmus. C'était un jeu de mots avec Smooth et Erasmus, le programme pour les étudiants. Et en fait, on s'était dit qu'on voulait un petit peu revisiter les pulls de promo des écoles qu'on trouvait un petit peu moches à l'époque. Et on s'est dit, on va faire un truc un peu plus mode, un peu plus cool, pour que les gens soient fiers de le porter. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, on a été un petit peu contraint d'arrêter parce qu'il y avait trop de difficultés, on avait trop de problèmes avec les associations des différentes facs qui le faisaient déjà, etc. Donc on se dit ça sert à rien, ça va faire trop de difficultés pour pas grand-chose. Et en fait, un soir, on était avec Yann, on se marrait sur les différents visuels, et puis en fait, on a tenté un visuel de Strasbourg. Je crois qu'à l'époque, c'était le Haut-de-Pierre ou Petite-France, je sais plus. Et en fait, on disait, ah, vas-y, c'est marrant, on va le montrer un petit peu aux potes pour voir ce qu'ils en pensent. On le montre, et puis tout le monde se dit, ouais, c'est top, on n'a jamais vu ça, c'est top, on va remettre le local un petit peu à la mode. Et en fait, ça a commencé comme ça. On s'est dit, tiens, pourquoi pas tenter ça? Et du coup, on a un petit peu commencé l'aventure comme ça. On a fait une première collection de 6 visuels, et on a présenté la collection, ça a plu. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire que ça à partir de là, quoi.
Donc c'est parti un peu sur un délire.
À la base, c'est parti sur un délire, ouais, complètement, ouais. On avait quand même déjà à ce moment-là, Yann, non, mais moi j'avais déjà quitté mon emploi que j'avais avant. On bossait pas du tout dans le domaine là. Moi, j'étais auditeur à la Défense et Yann, il était commercial, enfin acheteur pour du matériel médical. J'ai quitté mon emploi dans un premier temps. Je voulais faire du marketing, mais j'ai pas tout de suite trouvé. Du coup, je me suis dit, tiens, bah, je vais me mettre à mon compte et je vais tenter. Et en fait, j'ai revu Yann, qui était un ami du collège, un petit peu par hasard aussi. Et je lui avais un peu présenté le projet, il a adhéré. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est retrouvés tous les deux dans l'aventure, à quitter nos emplois et à tenter l'aventure folle de l'entrepreneuriat.
Et alors,
Et
après tout ce temps?
ben ouais, ben, si c'était à refaire, je le referais. On le referait, je pense. Ça a été super compliqué. Ça a été au début des années intenses. Psychologiquement, c'est très dur. Mais là, je pense qu'on est arrivé à un point où on prend énormément de plaisir. Les choses sont un peu tassées. On a pris aussi un petit peu de l'expérience, du recul. Et franchement, c'est un plaisir au quotidien.
Et donc, vous focalisez sur du local? Ça a fait popper votre enfin.
Ouais, bah en fait, c'était. Maintenant, ça paraît une évidence de faire des choses en local. Il y a 6 ans, ça ne l'était pas. Des marques indépendantes qui prenaient comme sujet les quartiers de Strasbourg ou d'autres villes de France, franchement, il n'y en avait pas du tout. Et c'est vrai que je pense que ça a permis tout de suite de profiter un peu du tremplin et de sortir la tête de l'eau parce qu'au moins, on avait un petit peu l'intérêt des gens. Après, on a bossé dur pour le mettre en place, mais au moins le sujet était un peu enfin, diversifiant ou par rapport aux autres, quoi.
Moi, je m'en rappelle au début, votre tout premier t-shirt avec le logo bleu, je sais plus.
Ouais, il y avait Petit France qui est des
Ouais,
bateliers
c'était
comme
ça,
ça.
ouais.
Au début, on a fait de l'impression qu'on sous-traitait à Paris. Ensuite, on s'est dit qu'on avait trop de problèmes de stock, de logistique et tout, que le futur, c'était de nous mettre à notre compte aussi avec l'atelier, de produire nous-mêmes. Comme ça, on évite les pertes, on évite les gâchis, on produit en flux tendu. Et donc, on a acheté notre première machine d'impression, donc pour laquelle on a fait les visuels que tu dis là. Et puis ensuite, on a été un petit peu poussé par Patrick de chez Curieux pour monter en gamme pour faire de la broderie. Donc, on a acheté une machine à broder à ce moment-là. Et au moment où on avait la machine d'impression, la machine à broder, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un atelier et faire profiter un petit peu aux autres de notre pseudo savoir-faire à ce moment-là, de notre expérience, pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs et puis pour qu'on puisse les aiguiller au mieux, quoi. Mais en tout cas, à la base, on était dans la cave de mes parents. Ça faisait 20 mètres carrés, on en reparlait encore hier avec Yann. On se disait, comment on a fait pour faire entrer tout ça dedans, quoi. On avait deux bureaux, la machine d'impression qui doit faire 2 mètres de long, la machine de broderie, on avait tous les stocks de côté, quoi. C'était un enfer. Un
Ah
enfer.
ouais, il devait faire chaud en plus.
Ben non, c'était la cave, il faisait
Ah
super
non,
frais,
il devait frais.
justement. Mais on avait qu'une petite vitre, tu sais, les petites vitres de cave, quoi, qui doivent faire même pas 1 mètre. Et franchement, avec la vapeur et tout, la fumée, est tombée, on avait explosé la consommation d'électricité de la maison, tu vois, parce que c'était tout le temps branché et tout. De temps en temps, on débordait dans le garage pour stocker les cartons. Mais maintenant, quand je reviens chez mes parents et que je revois la salle, tu vois, je me dis, c'est pas possible qu'on ait fait rentrer tout ça dedans, quoi.
C'était genre, c'était bondé, il y avait plein de trucs.
Ouais, on voyait plus rien, quoi. 20 mètres carrés
Oui, ça.
avec deux bureaux, deux machines, les stocks de cartons, tu sais, on devait avoir 30 cartons dedans, enfin, ça montait jusqu'au plafond, c'était.
Vous avez duré combien de temps dans le
Ça a
garage?
duré 3 ans comme
Enfin.
ça. 3, 3, 3, ouais, bien 3-4 ans presque. 3-4 ans, et ensuite on a trouvé l'atelier au Port du Rhin. Où on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais, c'est exactement ce qu'il nous faut. On a pris le premier, et ensuite, quand notre voisine est partie l'année dernière, on a repris aussi le deuxième pour faire un showroom à côté, quoi.
Ah, vous êtes expandé?
Ouais, on a maintenant deux ateliers collés, un avec toutes les machines et l'autre avec le showroom, et là on mange, salle de réception, etc., quoi.
Donc, le petit projet de t-shirt a énormément évolué.
Ouais, ça a clairement évolué, ça a complètement évolué, c'est plus les mêmes problématiques, c'est plus les mêmes difficultés non plus, mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus agréable maintenant que ça l'a été à l'époque, quoi.
Parce qu'on m'a dit que c'est bien de lancer une marque de t-shirt, mais c'est dur en fait d'arriver à sortir vraiment un salaire à travers une marque de
Ouais, bah
t-shirt.
alors, l'atelier fait 90% du chiffre,
Ouais, je m'en
quasiment.
doute.
L'atelier fait 90% du chiffre. L'atelier, c'est vraiment plus le gagne-pain, c'est plus du commercial, c'est plus aussi des choses qu'on avait l'habitude de faire avec nos différents emplois d'avant. Donc là, on a pu un petit peu bénéficier de l'expérience qu'on avait. Donc c'est plus du commercial, de la production, c'est plus vraiment de l'entreprise par rapport à la marque, ou c'est plus la vitrine. On se sert plus de la marque pour faire de la vitrine. Sachant qu'en plus, on a beaucoup de clients strasbourgeois, donc ça nous permet d'avoir été connus via la marque Ville de Cœur et maintenant de leur faire connaître l'atelier, quoi.
Ouais, donc tout s'imbrique en fait.
Ouais, tout s'imbrique, ouais, tout s'imbrique. Au début, on voulait pas les connecter, mais là, on est en train de les connecter de plus en plus les deux, de dire que la production se fait via le tissu social, que le tissu social est aussi ouvert aux autres. Donc on a beaucoup de clients, restos, bars, associations, clubs, enfin vraiment événements, on a énormément de choses. Diverses en Alsace, un petit peu aussi ailleurs en France.
Oui, parce qu'il n'y a personne d'autre qui a ouvert un...
Si, il y a d'autres
Si,
ateliers à
hein?
Strasbourg. Si, si, il y a clairement d'autres ateliers à Strasbourg, mais pas à Strasbourg même. Donc on est tous un petit peu splittés aux alentours. Après, on fait pas tous la même chose. Nous, à la base, on était plus destinés aux marques de vêtements. Donc on a des fournisseurs qui sont plus axés, on va dire, mode ou qualité. On fait pas trop de très grosses séries publicitaires. Nous, on va dire, notre créneau, c'est de une à 400-500 pièces. Après, on les fait aussi, mais c'est plus difficile de s'aligner. Mais vraiment, de une à 100 pièces, déjà, c'est là où vraiment on se démarque. Et après, on fait jusqu'à 400-500 pièces. Ça, on peut faire, quoi. Mais on se rend compte, en fait, qu'il y a énormément de gens qui veulent faire des petites séries. Qui viennent pour faire 30 polos pour un bar, qui viennent pour faire 20 petits t-shirts pour une marque, etc., quoi.
Oui, donc il faut aussi répondre à leur
Ouais,
demande.
c'est ça. Ouais. Bah, nous, on a eu des difficultés à trouver ça. On nous demandait à chaque fois de nous engager sur 50 pièces, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, il faut vraiment qu'on développe une offre pour les petites moyennes séries, quoi.
Et ça n'a pas été compliqué de créer cette offre?
Non, non, en fait, ça s'est fait assez naturellement parce que, ouais, de fil en aiguille, on avait déjà 2-3 clients qu'on connaissait via la marque, qui nous ont pris. Ensuite, les amis qui avaient des restos, des bars ou des choses comme ça. Et comme Strasbourg, c'est un peu un village, ça s'est vite goupillé comme ça a fait un petit peu effet boule de neige, et à l'heure d'aujourd'hui, ouais, on a pas mal de demandes qui viennent de manière naturelle.
Et tu dis que ça rapporte 90% du chiffre. Et quand vous avez ouvert, est-ce que ça a mis du temps pour décoller?
Ouais, ça a mis quand même. Je pense que la marque tout de suite a pris, mais je pense que l'atelier, ça a quand même pris bien 2 ans. Un, 2 ans à vraiment en être là où on est aujourd'hui, ouais. 2 ans avec pas mal de remises en question. Après, c'est surtout début, il faut refaire le site. Enfin, faut se renseigner sur comment communiquer. Je veux dire, c'était complètement différent de la marque, en fait. Donc, ouais, ça a pris bien 2 ans.
Quand même, ça met un peu de temps quand même.
Ouais, ça met un peu de temps, c'est difficile, c'est psychologiquement c'est usant aussi. Mais bon, on a tenu. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de secret. Plus on tient, plus ça marche d'une manière générale. Donc il faut être patient, faut travailler, se remettre en question, être un petit peu ouvert d'esprit pour accepter que voilà, et des fois il faut tout changer. Des fois il y a des choses qui marchent où il faut être assez têtu pour se dire bah non, moi j'y crois comme ça, je reste persuadé que ça va marcher comme ça, donc je m'accroche. Mais ouais, il faut être un petit peu ouvert aux différentes critiques, quoi.
Et il y a eu des moments de doute, de galère, comme tu me dis?
Alors, il y a eu des moments de galère, de doute, non, je trouve pas. Je pense qu'on n'a pas eu trop de doute. Je pense qu'on a toujours été un petit peu soudés et on s'est toujours dit que ça allait marcher ou qu'on allait vivre de ça. Donc, on s'est accroché. Mais clairement, de difficultés, que ce soit un petit peu financières ou même psychologiques, en se disant, tiens, voilà, là. On n'a pas assez de recul au début pour être ou assez d'expérience pour dire ça, c'est pas si grave, on va le refaire demain. On a toujours l'impression que si on ne fait pas le soir même, tout va s'effondrer et que le lendemain ça n'existera plus. Mais le lendemain ça existera quand même. Qu'on parte en vacances ou pas, ça existera quand même. Enfin, je veux dire, faut être patient et persuadé que ça va marcher. Et je pense qu'à partir de là, déjà, il y a de grandes chances que ça marche.
Ouais, t'as pris du recul maintenant sur certaines situations.
Ouais, c'est ça. Je pense que déjà au début, enfin, typiquement au début, on avait du mal à partir en vacances. Tu vois, quand on partait une semaine, on se disait, on va revenir, ça va être la catastrophe, je veux dire, on va être débordé, les clients, ils vont pas attendre. Mais je pense qu'en fait, les clients attendent si on les prévient. Si on ferme, ben, c'est pas grave, il suffit de communiquer un petit peu en amont, les gens attendent. Je dirais, c'est aussi aux gens qui sont aux rênes un petit peu du projet d'imposer leur rythme et pas toujours de subir, on va dire, le côté pressé des clients ou autres qui veulent toujours tout tout de suite, etc. Je pense que c'est toujours mieux de prévenir d'un délai qu'on va respecter que de dire que ça va être fait en 3 jours et qu'en fait ça va prendre une semaine. C'est à partir de ce moment-là où c'est difficile. Je pense que vaut mieux se protéger un petit peu en amont et vraiment être organisé. Et ça, pareil, on l'avait aussi via nos emplois d'avant où on avait un petit peu d'expérience là-dessus, quoi.
Oui, parce que les gens, ils ont peur de partir en vacances, et qu'ils mettent 10 ans avant de repartir en vacances.
Ouais, et
Ça
puis après,
fout.
bon, il y a toujours le problème aussi un petit peu financier derrière, hein. Ça c'est clair, mais je pense que ouais, la vie s'arrête pas, le projet, il faut savoir couper de temps en temps pour mieux reprendre, etc., quoi.
Oui, mais par exemple, un exemple fou, hein. Genre Jeff Bezos, il a mis 10 ans avant de partir en vacances. Je pense que financièrement, ça allait pour lui.
Ouais, moi je pense que si il faut pas partir en vacances 10 ans pour être dans sa situation aujourd'hui, je partirai plus pendant 10 ans. Mais...
Ça va, tranquille. Oui, c'est sûr. Mais voilà, il y a des gens, ils disent, ouais, je partais en vacances. Et après, ils disent, ouais, je gagne 10 000 euros par mois. Et tu fais, bon, c'est pas un problème financier, c'est que t'es accro au travail
Ouais,
ou que t'as
ouais.
peur.
Non, mais en tout cas, les choses après continuent. Je pense que, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. C'est vraiment une course de fond. C'est vraiment celui qui va durer le plus longtemps. Nous, on est clairement là pour faire ça toute notre vie. C'est l'ambition. Si on arrive à faire ça toute notre vie, tant mieux. Si on n'arrive pas, eh ben, on verra. Mais je veux dire, l'ambition, elle est là. Donc, à partir du moment où c'est un petit peu usant psychologiquement, que ça peut être usant financièrement au début, je dirais. Il faut faire en sorte de durer le plus longtemps possible. Si on se crame au bout d'un an, je veux dire, on va être dégoûté pour le reste. L'expérience, elle va plus être belle, alors que c'est la plus belle expérience. Donc, il faut prendre son temps. Il faut, voilà, savoir évoluer tranquillement, ne pas forcer quand on n'est pas prêt. Je veux dire, je pense que on a mis énormément de temps à faire des choses, mais par contre, je pense qu'on n'a rien fait de manière forcée, qui après nous a conduit à se dire, ok, là c'est une grossière erreur. Je pense qu'on n'a jamais fait d'erreur grossière. Mais par contre, on a mis des choses, on a mis 3 ans à les faire, alors qu'on aurait peut-être pu mettre un an avec du recul. Mais c'est pas grave, on n'est pas pressé.
Comme quoi, par exemple?
Bah, typiquement, enfin, le lancement des sites internet, où nous on n'est pas du métier, donc on a dû se former, on a dû faire un petit peu des petites erreurs au début, mais tant qu'on n'était pas prêt, on le faisait pas. C'est pareil pour les visuels, des fois on met 4 mois à sortir un visuel qui est fait en vrai, qui prend un jour. Mais je veux dire, c'est parce qu'on se dit, celui-là, on n'en est pas convaincu. Si on le sort maintenant, il y a des gens qui vont être déçus, les habitants du quartier vont être déçus. Donc là, je le sens pas, on le fait pas. Et c'est pas grave, on le fera à la prochaine collection. Donc des fois, il faut savoir un petit peu prendre le temps. Et par contre, quand on est certain, on est capable de le lancer le lendemain. Mais il faut savoir être sûr de ce qu'on lance pour éviter de perdre aussi les gens d'un point de vue de la communication, quoi.
Et vous mettez, vous avez un nombre de collections par an que vous définissez ou vous en foutez, vous
Au
faites un
début, on le
freestyle?
faisait un petit peu par collection, c'est-à-dire qu'on faisait collection plus ou moins grossièrement été et après collection hiver. Maintenant, on le fait plus trop, on le fait un petit peu au compte-gouttes, en fonction de l'inspiration. Dès qu'on a des quartiers qui nous inspirent ou qu'on a une idée, on en parle, on essaye de le mettre sur papier. Dès qu'on est convaincu, on est capable de le sortir la semaine d'après, que ce soit en hiver ou en été. En fait, on pensait être dans un format mode au début, donc qu'il fallait respecter un petit peu les cycles de la mode, entre guillemets, même si maintenant il n'y en a plus trop. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur un format cadeau, clin d'œil, où les gens vont acheter leur t-shirt parce qu'ils se disent, ah, tiens, j'habite au Neudorf, il y a le t-shirt Neudorf, c'est cool, etc. Et puis après, ça va graviter entre copains, ils vont en parler et tout. Donc je pense que finalement, le t-shirt, ce qu'on vend le plus, c'est aux périodes de fête, et périodes de fête, c'est en hiver. Donc en soi, il n'y a plus vraiment de cycle saisonnier pour nos produits en tout cas.
Oui, tu peux faire des collections de capsules en plus quand tu
On en fait de
veux.
temps en temps, voilà, c'est ça. Dès qu'on n'a plus trop d'inspi pour les quartiers, qu'on a des inspi pour d'autres choses, on expérimente d'autres choses, on regarde si ça plaît ou pas, mais c'est pas notre cœur de métier. Nous, c'est vraiment les quartiers Strasbourg, ville de cœur, mais de temps en temps, on se fait des capsules, ouais.
Mais justement, est-ce que vous avez fait tous les quartiers de Strasbourg?
Non,
Pas
on les
encore?
a pas tous faits, on les fait un petit peu. Au début, on faisait ceux qu'on connaissait le mieux, clairement. Il y en a d'autres qu'il faut encore qu'on fasse. Mais ça viendra au fur et à mesure en fonction de l'inspi. Encore une fois, on force pas. Donc, il y a de temps en temps des gens qui nous écrivent, ah tiens, il n'y a pas encore le quartier. Je sais pas, je crois qu'on n'a pas fait encore le Neuf, on n'a pas fait encore typiquement le quartier Bourse. Après, il y a d'autres t-shirts qu'on avait fait en impression qu'on aimerait bien refaire en broderie, typiquement Petite France, quartier le Quai des Pêcheurs, des choses comme ça. Mais encore une fois, on le fait au fur et à mesure, quoi.
Ouais, il n'y a pas un où tu t'es dit je veux absolument le faire et ça a été trop dur de trouver l'inspiration.
Alors moi j'habitais avant à côté des Halles et j'ai toujours voulu faire le quartier des Halles et je galère, je trouve pas, je galère. Le seul truc que je vois c'est
Et puis
la
carrousel, non?
sculpture qui
Non, ouais, non.
non le
Il n'y a pas un avec la carrousel, avec le
à
car.
Gutenberg ouais.
Ah, c'est Gutenberg,
Mais
oui.
ouais Halles on n'a pas encore fait et j'ai du mal à le trouver. Donc s'il y a des gens qui ont des bonnes idées, avec grand plaisir.
C'est-à-dire que, à part mettre un ibis,
Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. En fait, c'est super compliqué quand c'est des quartiers soit trop résidentiels, soit quand c'est des quartiers où c'est plutôt là commercial, on va dire, hein, où c'est plutôt une zone commerciale qu'autre chose. Donc, on a un petit peu du mal, quoi.
parce que les Halles, il n'y a rien d'emblématique.
Bah, si, il y a la sculpture devant, quand même, avec la personne qui marche vers le ciel. Mais
Ah oui, je vois.
en fait, d'habitude, on aime plutôt prendre un truc. Et soit un petit peu le caricaturer, ou alors une habitude du quartier et un petit peu la caricaturer, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on procède, quoi.
Parce que je me dis, la petite France et la Cruthénot, ça devait être simple.
Petite France et Cruthénot, c'était assez simple. Après, il y en a d'autres qui sont simples, hein. Gusenberg, c'est simple, on n'a pas cherché très loin. Neudorf, plus compliqué. On était parti sur un vélo avec des fruits du marché, mais celui-là était un petit peu plus compliqué, on l'a pas trouvé tout de suite. Après, il y en a d'autres, Roberto, c'est facile. Les Comtades, on a un peu galéré aussi, Comtades.
C'était quoi les comptables?
On a pris le petit kiosque qu'il y avait au milieu du parc
Ah oui, tiens.
pour le mettre en valeur. Ouais, en fait, on pense aussi qu'il faut que ça soit vendable. Donc, il faut quand même que le dessin plaise d'un point de vue esthétique pour te dire, ok, ça, je vais l'acheter
Et je vais le porter.
et je vais le porter. Donc, il faut pas que ça soit juste un clin d'œil, mais qu'on puisse pas mettre quoi, il faut que le truc il soit un petit peu glamour, un petit peu sympa, enfin pour que les gens ils soient contents indépendamment du visuel et de l'autre côté le petit clin d'œil qui va bien quoi.
Vous avez fait aussi une broderie avec un cœur et la cathédrale?
Ouais, ça à la base c'était en fait à la base on avait juste fait le cœur qu'on trouvait assez graphique et on l'utilisait comme logo pour Ville de Cœur et en fait on avait fait un logo avec la cathédrale dedans et on s'est dit tiens, on va le vendre comme ça. Franchement, le logo, il a pris 5 minutes à juste rajouter la cathédrale dedans. Et en fait, c'est le modèle qu'on vend le plus. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, on va le transformer en logo de la marque parce que ça colle le cœur avec la cathédrale, Ville de Cœur, c'est parfait. Et du coup, maintenant, on s'en sert comme logo de la marque et c'est devenu le logo Cathédrale de Cœur qui est ouais, le logo le plus vendu, quoi. Celui qu'on décline le plus, en tout cas.
Ben, je trouve c'est beau, tu vois, ça représente tellement Strasbourg, mais jeune et graphique et...
Ouais, c'est pas simple parce que nous on a toujours le nez dedans donc on se dit toujours mais t'es sûr que ça c'est un petit peu graphique comme tu dis ou un petit peu mode moi je suis pas sûr que je le porterai etc. et en fait on se remet toujours en question mais après au fur et à mesure, il faut juste se fier aux ventes aussi et se dire si ça plaît comme ça, bah peut-être que toi tu vas pas le porter, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est le modèle qui est le plus vendu, donc il faut l'accepter. Nous, on a du mal à porter nos produits. Il y a beaucoup de produits qu'on ne met pas parce qu'on ne s'y retrouve pas et parce qu'on a du mal, on est tellement dedans, on voit tellement l'envers du décor et tout, qu'on a du mal à les porter.
Alors qu'il y en a qui ont des boîtes, genre je sais pas si tu connais Rémi des Popia.
Non.
Et ben lui il a toujours le t-shirt Popia. Et quand je vois, je fais, hé, beau t-shirt. Et c'est
Ouais,
tout le temps la même blague, tu vois.
mais là, je
Et
sais pas,
tout le temps.
on a du mal, on a du mal à les prendre. En tout cas, on va plus porter des choses simples, sobres, mais on va pas forcément mettre le gros placard qu'on a de temps en temps, quoi.
Ben, ça veut peut-être trop. Enfin, moi je trouve. Ça va être très ambassadeur de ta propre marque, tu vois, qui vient
Ouais, mais
avec.
je pense qu'il faudrait, hein. En soi, il faudrait en vrai se faire des produits comme ça, même avec l'atelier, on est en train de réfléchir à faire une gamme de vêtements qui sortirait de l'atelier ou là pour le marketer de manière un petit peu différente, mais c'est sûr qu'il faut on est les premiers ambassadeurs comme tu dis donc
Ouais, mais faut avoir envie de tout le temps le porter, tu vois. Parce que, genre, je
ouais.
vois le t-shirt de Rémi, il faudrait qu'il le refasse, tu vois.
Bah en fait la différence je pense avec ce que tu dis c'est qu'il fait quoi comme activité? Enfin il fait pas du textile.
Non, il est CEO d'une. Oui, c'est pas vrai. Il est CEO d'une start-up pour. Petit écrit des lettres aux enfants,
Ok.
etc. Ils répondent, tu vois.
Donc tu vois, je
Mais
me demande
très.
si, ouais, je me demande, tu vois, si en fait le fait que quand tu fais pas ta, quand c'est pas ton domaine d'activité, tu portes le t-shirt. Mais en fait, c'est nous qui faisons le t-shirt, tu vois.
Ouais.
Donc porter son propre t-shirt, c'est pas la même démarche. Enfin, c'est un peu différent. Et puis les t-shirts, on en voit tellement tous les jours, on en sort tellement tous les jours que c'est, on rentre à la maison et t'as juste envie de mettre une chemise.
J'en
On n'en
peux
veut
plus
plus
des
des
t-shirts.
t-shirts.
Est-ce qu'il y a une mode aussi, ouais, des hoodies, des pulls
Ouais, on fait beaucoup de pulls capuche, on fait de plus en plus d'oversize qui sortent chez les différents fournisseurs qu'on vend bien. Les fournisseurs qu'on a, c'est des fournisseurs qui sont de plus en plus axés mode et plus du tout publicitaires, donc ça suit un petit peu les coupes du moment, quoi. Donc il y a beaucoup d'oversize, il y a des choses un petit peu plus modernes niveau coupe.
Mais Clément, tu le connais, qui a donc Air Campus. Au début, il voulait faire des t-shirts de publicitaires et tout dans les campus.
Ouais, bah,
Et il est passé par vous?
il passe par nous. On en a fait, enfin, on les a fait déjà leurs produits à eux, de leur équipe. Et après, ils voulaient faire un petit peu, je crois, pour les écoles. Ils voulaient faire mettre ça en avant.
C'était le projet de tout début, ça.
Ouais, ça date d'il y a un an et demi.
Ouais, c'est
C'était
ça.
après. Mais je crois que je sais pas trop où ça en est, en toute
Ça
sincérité.
swipe.
Ouais,
Ouais, ils
ça.
ont fait autre chose maintenant.
Bon, je pense que c'était une bonne idée, mais je pense que comme toute bonne idée, il faut du temps pour la pousser. Et je pense que là, peut-être qu'il n'avait pas le temps de le faire. Mais je pense qu'il y a un vrai créneau à prendre sur les écoles, fac, choses comme ça. Mais il
Mais vous
faut
êtes
du
pas
temps.
arrivé, par contre.
Non, mais je pense que le sujet que lui, il avait, c'était plus de mettre en avant, enfin en tout cas quand il nous en a parlé, c'était de mettre en avant les facs, lycées, écoles de Strasbourg. Et je pense que nous, quand on a tapé des choses d'Erasmus, on a tapé des choses à l'étranger, des choses aussi en France, mais on n'avait pas la proximité qui pouvait être d'ici. Donc du coup, je pense que c'est peut-être là l'erreur aussi qu'on a faite de vouloir toujours partir trop large, etc. Et je pense que ce qui marche avec Ville de Cœur, c'est qu'on a fait tout l'inverse. En fait, on a voulu mettre en avant quelque chose qui est dans un périmètre de 30 km de chez nous. Du coup, c'est vachement plus facile de communiquer, c'est vachement plus facile d'aller voir les revendeurs ou les boutiques. C'est vachement plus facile d'avoir des retours clientèle. Enfin, et tout est plus simple. Au début, on livrait même nous-mêmes. En voiture, on allait déposer les colis quand il n'y en avait pas beaucoup. Donc, tu vois, tout est plus facile pour commencer.
Oui, parce que taper dessus dans Paris alors que t'es à Strasbourg, c'est impossible.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis après, il y a le côté aussi un petit peu chauvin des Strasbourgeois, où on va se dire, voilà, là, c'est des projets Strasbourgeois, c'est des Strasbourgeois, on a des amis en commun ou des connaissances en commun. Bah oui, ok, je vais un petit peu soutenir. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça.
Est-ce que le Strasbourgeois est très chauvin ou pas?
Très chauvin, il faudrait que je puisse comparer aussi
Oui, les
avec
autres régions.
d'autres régions, mais je pense qu'il est assez fier de ce qu'il a ici, tu vois, et je pense qu'il a raison d'être fier de ce qu'il a ici, parce que je trouve qu'on a une super vie, une super culture, une super région, et ouais, je pense qu'il est content de ce qu'il a, tu vois, et je pense qu'il le revendique.
Parce que toi, tu m'as dit que t'avais arrêté ton travail à la Défense.
Ouais, moi j'ai bossé à Paris avant 3 ans. Et ensuite, je m'y retrouvais pas. Déjà, la ville, je détestais Paris. Enfin, je m'y retrouvais pas du tout. Le boulot, l'équipe était top, mais le boulot, je m'y retrouvais pas non plus. Du coup, à un moment, je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans? Tu vas faire la même chose ou tu veux faire complètement autre chose? Et si tu veux faire autre chose, c'est maintenant parce que après, on va plus te prendre. Et du coup, j'ai démissionné. J'ai recherché un boulot, justement, dans autre chose. J'ai galéré à trouver parce que j'avais pas forcément de stage ou d'expérience professionnelle là-dedans, mais j'étais persuadé que c'est ce que c'était là-dedans que j'étais bon, quoi. Et du coup, je me suis dit, mets-toi en auto-entrepreneur, commence comme ça, et puis après, t'avises. Et en fait, on a commencé comme ça avant de lancer la société. Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, maintenant, on va créer la société. Mais Yann, c'était pareil. On s'est revus par hasard. On est des amis du collège, mais je peux même pas t'expliquer comment ça se fait qu'on s'est revus à ce moment-là. On s'était pas vus depuis 8 ans. Je sais même pas pourquoi on a fait des t-shirts à la base. Tu vois, je veux
Ah
dire,
ouais.
on aimait bien le domaine du textile, mais en tant que consommateur, pas en tant que producteur ou des choses comme ça. Donc, franchement, on a choisi le sujet-là. Et je pense que c'est parce qu'on a vu qu'il y avait un créneau à prendre qu'après on a continué là-dedans. Mais on n'est pas du tout du secteur-là. Ce qui est à la base une faiblesse, mais je pense qu'on l'a transformé en force parce que justement, on a pris le temps, qu'on s'est perfectionné. On voyait aussi ce qui nous dérangeait chez les autres, ou tu vois, etc. On s'est dit ça, on veut pas faire, on veut faire quelque chose de proximité, qu'on veut faire quelque chose où il y a du conseil, il y a de l'accompagnement, parce que le secteur du textile, c'est un secteur super opaque. Et du coup, on en a profité pour, voilà, pour mettre notre expérience passée au service de celle d'aujourd'hui, quoi.
Parce que ça me fait penser à une histoire d'un CEO hyper connu. Je sais pas si tu connais Lemlist de Guillaume. J'arrive pas à prononcer son nom de famille, c'est Malbouek, je sais pas quoi. Bref, je s'en fous. Et il a commencé en se disant, je vais créer une marque de t-shirt. Donc lui, il était dans l'illusion totale. Et après, il a eu la désillusion quand en fait, il a ouvert son site et personne a acheté. Il a dit ouais, tout le monde va acheter, mais bon, non, ça n'existe pas. Et lui, il n'a pas tenu. Il a arrêté sa marque de t-shirt rapidement et il a créé Lemlist. Et là, il est super méga connu, grosse boîte qui a fait, je sais pas combien de millions,
Mais
tu
je
vois.
pense que, tu vois, de ce que tu dis, je pense qu'en fait, à la base, il y a, enfin, en tout cas, des gens qu'on connaît, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont pas du secteur dans lequel ils vont exercer derrière. Mais je pense qu'il faut pas voir le secteur ou les compétences pro. Les compétences pro, ça, tu peux les acquérir. Il n'y a pas de souci là-dedans. Il suffit de se former, il suffit d'un petit peu lire, il suffit de se renseigner, ou tu fais des stages ou des immersions. Mais je pense que le plus important, c'est les compétences perso que tu vas acquérir au fur et à mesure de tes différents boulots. Et je pense que c'est ça qui est plus important, tu vois. Genre, c'est con quand on dit, ouais, le plus important, c'est l'humain. Mais en fait, c'est vrai, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que l'humain qui compte. Les compétences techniques, tu peux les apprendre. Si tu formes quelqu'un qui est bien, d'un point de vue humain, d'un point de vue compétences pro, tu vois, qui va réussir à bien se comporter dans une boîte, qui va réussir à être ouais, autonome, réactif et tout, et ben, tu peux lui apprendre les compétences pro. C'est pas important, ça. C'est pas important. Enfin, en tout
Ouais.
cas, moi, je pense que ça l'est pas.
Mais faut avoir le feu, tu vois. Lui, par exemple, il a pas eu le feu. Il s'est dit, ouais, c'est pas pour moi, je
Ouais.
change. Vous êtes dit, on continue,
Ouais, mais parce
il y a
que je
peut-être un
pense que nous,
truc.
on a vu un petit peu l'engouement, tu vois, au début de ce truc-là, où on n'a pas attendu longtemps pour vendre les premiers t-shirts. Déjà, de base, on avait des bons retours. Ensuite, on a eu des premières ventes qui sont arrivées super vite. On a fait un premier événement tout de suite au début, qui était à l'époque au Troquet des Knekkers, où genre c'était plein, tu vois. On a vendu, je pense, une centaine de t-shirts dans la soirée. Et au début, c'était fou pour nous, tu vois, de se dire on va vendre 100 t-shirts dans une soirée quand tu commences. Ensuite, on est allé à la Pop Artiserie, qui était la Pop Artiserie, enfin, à l'époque, qui a fermé, où on a vendu de nouveau là-bas en dépôt-vente. Ensuite, on était chez un coiffeur à l'Atmostore, qui est des bateliers, qui est maintenant Curieuse, qui, pareil, en dépôt-vente. On a fait un événement là-bas, on a vendu. Tu vois, il y avait plein de petits signaux où on s'est dit c'est top ce qu'on fait, ça nous plaît, on va continuer à pousser, on va continuer à pousser. Et ensuite, l'atelier est arrivé, où on a créé l'atelier, et là, on s'est dit là, il y a un vrai créneau, par contre, pour en vivre, quoi.
Peut-être l'intelligence, c'était de tout de suite aller sur des lieux et pas d'être sur Internet et d'attendre en fait les ventes.
Ben nous, on n'est pas des bruts du web. C'est pas notre enfin, on n'est pas trop de cette génération-là, déjà de base, trop réseaux sociaux ou autres. Quand je vois les stagiaires qu'on a aujourd'hui, ce qu'ils savent par rapport à nous, c'est incroyable. On savait à peu près faire un site, ou au moins on a appris à le faire, mais pareil, il y a plein de lacunes, on a encore plein de lacunes là-dedans. Mais par contre, ouais, on était beaucoup plus contact physique. C'était important pour nous d'aller voir les gens, de savoir ce qu'ils en pensent. Je veux dire, ça a été super important d'être entouré de contacts critiques. Tu vois, on a été quand même entouré de personnes assez critiques. Je veux dire, que ce soit la famille ou tu vois, des personnes qui ont été un peu des mentors comme Patrick au Curieux, qui est une personne assez critique. Je pense que c'est super important. Je pense qu'il faut arrêter de s'entourer de personnes qui disent c'est génial ce que tu fais, mais qui n'achètent pas. S'ils n'achètent pas, c'est qu'ils trouvent pas ça génial. Pour moi, c'est juste, voilà, c'est important d'avoir des personnes qui vont te dire ouais, c'est pas mal, mais tu vois, là, ça, j'aime pas à cause de ça, ou ça, c'est comme si. Et c'est à ce moment-là que tu arrives, si tu te remets en question, à progresser. Sinon, tu progresses pas.
Et donc les critiques, ça allait, j'arrivais à les encaisser si on avait.
Ouais, je pense qu'il faut. Nous, on a toujours réussi à se détacher de ça, mais en fait, comme on n'était pas du milieu, tu vois, on n'avait aucune prétention à être les meilleurs ou autres, et on l'a toujours pas. Tu vois, nous, on apprend tous les jours, on se perfectionne tous les jours. Donc, si quelqu'un nous dit, ouais, ça, c'est pas top, ou ça, fais-le comme ça et tout, en fait, on l'écoute parce que, je veux dire, on n'est pas meilleur que lui. Donc, tu vois, on apprend de ces personnes-là. Mais c'est super important. Je pense que toutes les personnes qui se lancent, il faut s'entourer de personnes critiques. Il faut s'entourer de personnes critiques et il faut réussir à détacher l'affect du pro. Tu vois.
Au niveau du syndrome de l'imposteur, ça va?
Ouais.
Ça va. On n'a pas trop, parce que des fois, quand on se sent dans quelque chose de complètement à l'opposé de ce qu'on a fait, on peut se sentir en décalé, donc en syndrome de l'imposteur.
C'est-à-dire, tu veux dire par
Genre, tu
rapport.
dis, ouais, en fait, c'est pas fait pour moi, etc. Enfin, ils vont découvrir que ce que je fais, en fait, je suis un imposteur. Genre, j'ai pas à faire des t-shirts, c'est improbable. Ou
Ouais, mais c'est
t'es
pas.
détaché de ça.
Non, mais on n'est pas. On a rien d'imposteur là-dedans,
Non,
tu
mais
vois,
justement,
je veux
mais le
dire.
mec, il pourrait. Le mec, il le ressent très rapidement, même quand c'est leur
Ouais,
compétence, quoi.
au début, t'en as toujours un petit peu qui vont se dire, ouais, qui vont critiquer le projet, ou c'est pas des critiques constructives, tu vois, c'est juste là un petit peu pour t'éteindre. Mais ils en font un peu plus.
Ouais, normal.
Ils en font un peu plus pour nous éteindre. Maintenant, ça fait 6 ans qu'on est là. On n'a jamais critiqué personne, on n'a jamais souhaiter qu'une autre marque s'éteigne ou autre, tu vois, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, faut que ça se fasse dans le respect, c'est tout. Mais après, non. Au début, c'est plus compliqué parce que tu le prends pour toi. Tu te dis, attends, cette personne-là, elle me veut un peu du mal ou pourquoi elle veut nuire au projet. Moi, je veux juste me lancer, faire mon truc, faire mes expériences et puis c'est pas ton problème. Si ça te plaît pas, passe ton chemin, tu vois. Enfin, je vais pas perdre mon temps moi à vouloir faire quelque chose comme ça, j'ai autre chose à faire. Mais après, au bout d'un moment, en fait, tu te dis que ça te sert comme de la com. Tu vois, maintenant, moi je le prends comme ça. Je n'aurai personne qui va critiquer sur un commentaire ou autre alors qu'il a jamais acheté. En fait, je me dis juste que ça me fait remonter mon script Insta. Tu vois. Je le prends pas, franchement, je le prends pas autrement.
Oui, voilà. Ça, il faut être détaché, sinon t'arrêtes vite, quoi.
Ouais, t'arrêtes vite, puis après. Sur une marque, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Sur l'atelier, c'est pas pareil. Tu fais du B2B. Donc les gens ne se comportent pas de la même manière. Le pire, je trouve que c'est le B2C parce que là, tu as les particuliers. Et les particuliers, aujourd'hui, ils se cachent derrière leurs écrans de temps en temps pour se lâcher. Mais en B2B, tu l'as pas, ça. Tu vois, c'est un peu différent.
Oui, c'est ce qu'on dit. De toute façon, les gens, ils sont. Même en face à face, les gens, ils te parlent différemment en
Oui.
B2B, en B2C.
Ouais. Mais même en face à face, on n'a jamais de problème en B2C. C'est souvent ouais, derrière des écrans, mais il faut s'en détacher. Enfin, je veux dire, si on est persuadé du projet, il faut avancer. Après, des critiques, il y en aura tout le temps. Si on s'arrête à la première critique, ça ne changera rien.
Et vous avez fait beaucoup pour la communication. Vous avez mis beaucoup en avant des influenceurs locaux, j'ai vu.
Ouais, on en a fait au début. On en a fait avec des personnes. On s'est jamais trop lancé dans la quête des influenceurs. En tout cas, pas encore, tu vois, on sait pas si on le fera ou pas. Pour le moment, les personnes avec qui on a échangé sur ça, il y a eu Caro, il y a eu Emanuela, je dois sûrement en oublier quelques-uns ou quelques-unes, mais en fait, c'est des gens avec qui on a déjà une affinité. En fait, c'est des gens qui nous suivent depuis le début, c'est pas la démarche, il n'y a pas une démarche trop commerciale derrière, c'est plus, ah tiens, je veux te faire plaisir, et toi, si tu veux en parler, t'en parles. Moi, je suis plus de cet avis-là. Si ça te plaît, il faut en parler. Si ça te plaît pas, pour pas nuire, t'en parles pas, mais voilà, ça reste comme ça. Mais j'attends pas forcément quelque chose derrière, tu vois. Je le prends de manière un petit peu peut-être naïve, mais je suis pas fan de la course de la course à l'argent, de ce genre de choses. Pour moi, à la base, ça devrait être quelque chose d'assez objectif. Tu offres quelque chose à quelqu'un, si ça lui plaît, tant mieux. Si ça lui plaît pas, ben, c'est pas grave, il n'en parle pas. Mais il faut pas qu'il se force à en parler si ça lui plaît pas.
Oui, et maintenant tu regardes les budgets pour les influenceurs, ça grimpe.
Ouais, bah c'est le. Après, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est juste une nouvelle manière de
Ah mais c'est
communiquer.
génial, il y en a qui communiquent mais extrêmement
Ouais,
bien.
ouais.
Genre, moi j'adore My Sweet Cactus, je la suis et j'adore Caro, mais genre je les adore celle-là. C'est ces deux femmes parce que elles parlent de produits et t'as pas l'impression que c'est
Ouais, et
tu
puis
vois
je
de la
pense
mise en main. En fait, elles savent emballer vraiment leur communication et je les suis juste pour ça parce que je les trouve incroyable dans ce domaine.
que. Ouais, et puis je pense qu'à la base, il faut pas oublier qu'ils ont pas. Ils n'ont pas toujours été avec ces milliers d'abonnés. Nous,
Ah,
Caro,
ils ont
quand
combien?
on a commencé à parler avec elle, elle avait quasiment rien. Enfin, en tout cas, c'était comme nous, elle avait rien, tu vois. Et je veux dire, elle s'est aussi accrochée, elle s'est donnée pour que ça marche. Et je pense que ça, on l'oublie trop. Il y a trop une, des fois, c'est une jalousie envers les influenceurs. Mais pour moi, c'est juste un nouveau métier qui est en train de se créer et qui continuera à se créer. À l'époque, on payait des encarts publicitaires dans les métros ou des affichages ou des choses comme ça. Bah maintenant, c'est comme ça que ça se fait, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est un nouveau métier qui se crée, mais comme il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, trop de CM ou de choses comme ça à l'époque, où il n'y avait pas trop de personnes qui gèrent les réseaux sociaux, maintenant c'est des métiers à part. Point barre, le monde évolue, il faut s'adapter avec, et puis voilà.
Mais après, c'est des femmes moi, que j'adore, que je suis beaucoup, et j'aimerais bien une fois faire un podcast avec Caro, je sais pas. Parce que je me dis, ça doit être bien de parler d'influence,
Il
tu
faut lui
vois.
demander.
Ouais, j'ose pas. Il y a plein de monde que j'ose pas, genre Marc Keller, toujours pas envoyé ce mail que j'ai envoyé depuis 6 mois. Voilà. Il y a des gens, tu vois, j'ai du mal. Mais c'est le jeu, quoi.
Ouais.
Mais je pense que Caro, ça peut être top justement de parler de ses débuts. Parce que c'est galère de se faire connaître, etc. Et
Ouais, je crois.
d'évoluer.
Puis je pense qu'il y a toute une partie, il y a toute une partie que les, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est pas facile d'avoir un prêt typiquement quand on est à son compte. C'est pas facile de trouver un appart en location quand on est à son compte. C'est pas facile de, il y a plein de choses comme ça. Donc du coup, en fait. On voit maintenant quand ça marche, mais tu vois pas l'envers du décor où tu te dis au début, bah ouais, ça a peut-être été galère pour telle ou telle raison, etc. En fait, on voit souvent la partie, le moment à partir d'où la personne, en gros, le truc a déjà éclos, le truc est déjà visible. Mais s'il est déjà visible, c'est déjà que la personne, elle a sorti la tête de l'eau. Mais tu vois pas la partie en amont où c'est un petit peu compliqué, où tu remets en question, où tu dis, ouais. Je vais peut-être choisir la sécurité, je vais peut-être pas faire ça parce que je dois tenir toute une vie, ou comment je vais faire le jour où j'aurai des enfants, comment je vais faire le jour où je vais acheter une maison, comment je vais faire pour voyager, ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est super honorable, justement, aujourd'hui, les personnes qui sortent la tête de l'eau et qui s'accrochent, tu vois, et qui sont à nouveau là, parce que nous, il y a plein de personnes, comme je te disais avant, que ce soit Rana, que ce soit, tu me disais, Fleur et Zéphyr, que ce soit même. Clément, que ce soit, il y a plein de personnes où en fait on a un petit peu tous commencé en même temps, tu vois, il y a environ 5-6 ans, et en fait on le voit maintenant, on est content on est content d'être encore là, tu vois, et se dire, bah, il y a peut-être eu 2-3 années de galère, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est cool et on s'est accroché, quoi.
C'est parce que tu as dû voir aussi plein de personnes qui n'ont pas tenu et qui ont dû abandonner.
Ouais, franchement, j'en ai pas vu tant que ça. Mais après, je pense que c'est parce que. On est comme ça et donc on a des affinités aussi peut-être avec des personnes qui sont aussi comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de marques couler, mais j'ai pas vu trop de projets B2B, on va dire, ou de projets plus comme ça s'écrouler, je pense. Mais j'en oublie sûrement.
Oui, après là. Il y a tellement de choses aussi.
Ouais, il y a tellement de choses, il y a tellement de personnes qui se lancent, il y a tellement de projets différents qui se créent aujourd'hui. Mais je trouve ça super cool, moi. Je trouve qu'il y a vachement de la génération là, en tout cas, qui arrive. Je trouve qu'elle est beaucoup plus créative que celle d'avant. Et je trouve qu'elle a plus vite fait de se dire, ok, stop, je vais pas faire ça toute ma vie. Je vais me lancer, je vais me mettre à mon compte, je vais arracher le sol, je vais tout défoncer. Il y en a de plus en plus, je trouve.
Ça fait peur à la génération d'avant. Parce qu'on a,
Ouais.
justement, on reste pas quand ça nous ressemble pas, on veut créer, on veut un peu changer le monde, le mettre à notre image. Et justement, vu qu'on bouge les anciens codes, bah ça fait peur aux générations d'avant qui comprennent pas pourquoi il y a des gens qui sont influenceurs, pourquoi il y en a qui sont sur TikTok, etc.
Ouais, mais je trouve que les gens, il s'adapte quand même assez vite, tu vois. Je trouve que il y a toujours un moment où tu vas déranger pendant un an et ensuite ça va être la nouvelle norme, tu vois. Il y a plein de trucs qui ont changé, enfin, on s'en rend pas compte, mais typiquement des Doctolib, tu vois, des Doctolib, maintenant les parents, les grands-parents peuvent même l'utiliser, alors qu'il y a Doctolib il y a 10 ans ou je sais pas combien de temps ça a, mais ça doit avoir à peu près cet âge-là. Ça paraissait fou, tu vois, de réserver ton médecin de village ou de proximité sur Internet. Au final, maintenant, on le fait. Donc, je veux dire, c'est toujours la petite phase de transition qui dérange. Et après, hop, on va quand même s'habituer. On va se dire, ah, c'est pas si mal. Ok, je l'utilise.
C'est comme les iPhones, hein. Au début, on se disait, ouais, c'est
Ouais.
quoi cet iPhone? Je comprends
Les
pas, il n'y a plus de
iPhones.
touches, et maintenant c'est normal. Quoi, attends, tu vas prendre un portable avec des
Toutes les
touches.
applis. Enfin, il y a tellement de choses qui se créent. Moi, je suis sûr qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste un petit peu. Ouais, prendre du recul, s'accrocher, si on est persuadé qu'une idée est bonne, bah la pousser jusqu'au bout, quoi. Mais le faire bien.
Et est-ce que Strasbourg, pour toi, ça bouge assez? Parce que il y a des gens qui me disent ça bouge pas assez, et là qui me disent ça bouge trop.
Bah, moi, quand j'ai quitté Strasbourg pour faire mes études, je suis d'abord allé à Marseille, ensuite aux Pays-Bas et ensuite à Paris. Ben, je trouve que quand j'ai quitté Strasbourg, c'est un petit peu ce que je reprochais. C'est que ça bougeait pas assez. Mais j'avais 20 ans, tu vois, 22 ans. Et je trouve que quand je suis revenu ici, je me suis dit, ouais, ça a quand même vachement évolué. Déjà, il y a beaucoup plus de cafés, bars, boîtes, événements divers. T'as vachement de trucs qui se font aujourd'hui. T'as énormément de festivals. T'as vachement de nouveaux projets. Non, franchement, moi, je trouve que c'est parfait. Je trouve que ça bouge bien. Je trouve que ça bougera jamais assez. Ça peut pas ne pas bouger. Enfin, on peut pas dire ça bouge trop. Ça bougera jamais assez. Mais je trouve que franchement, ça prend une très belle direction.
Oui, parce que tu connais Franck Meunier, je suppose. Ben, en fait, c'est en 2010 qu'il s'est vraiment lancé. Je me dis, mais c'était il n'y a pas longtemps.
Ouais, ça fait déjà 11 ans quand même.
Ouais, mais.
Bon, après, lui, il a
Ben, il m'a dit qu'il n'y avait
connu.
que deux bars qui y avait bonne ambiance.
Ouais.
Et lui, il avait le deuxième.
Ouais. Bah, t'avais. La grande rue n'était pas ce qu'elle était. La place
La rue
où.
des kebabs, il m'a raconté.
Ouais, après t'avais toute la place où il y a le trolley aujourd'hui, qui, bon, le trolley était déjà là à l'époque, mais il n'y avait rien, c'était l'arrière des Galeries Lafayette, et t'avais pas ce qu'il y avait aujourd'hui, hein. Je trouve que, il y a Franck Meunier, mais je veux dire, t'as aussi tout le groupe à Gilles, le groupe qui ont Tsatsi,
Poivre,
ouais, c'est ça, qui ont Diablo Poivre, un truc
Diablo
comme
Poivre.
ça, qui ont Tsatsi, qui ont Iscantine, et tous ces trucs-là, et je
Qui
trouve
ont
que...
pour moi les meilleurs restaurants.
Ouais, en tout cas, je trouve qu'ils ont des concepts incroyables.
Oui.
Ils ont des concepts incroyables, ils sont ultra créatifs, ultra pro. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils font. Mais t'avais pas tout ça à l'époque, tu vois, t'avais pas tout ça. Et je trouve que ce soit bien, que ce soit des investisseurs locaux, tu vois, qui fassent ça, qui fassent bouger la ville. Tu peux toujours reprocher à quelqu'un d'avoir 10 bars, 10 restos, etc. Mais en soi, je veux dire, c'est un mec d'ici qui a trouvé le filon et qui a tout fait pour, voilà, enfin, qui travaille pour dur pour que ça marche, que ce soit n'importe qui, tu vois, il y a tellement des gens comme ça. Mais au moins, je trouve que ça déjà bien que c'est des personnes d'ici.
Ce que je reproche à la ville, c'est peut-être de laisser trop de gros fast-food s'installer.
Ouais, au centre, clairement. Au
Genre.
centre, clairement. Après, t'as pas du gain, malheureusement. C'est toujours un peu comme ça. Puis t'as surtout aussi des loyers très chers à Strasbourg. Et je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui peut se payer ces loyers-là en plein centre.
Ben, Five Guys, anciennement Adidas, qui peut se payer ça? Tu
Ouais,
dois le
tu peux
couper.
pas. Ouais.
C'est impossible.
Bah, c'est pour ça, ouais, je pense qu'en fait, t'es un peu piégé quand tu fais ça. À partir de là, tu peux pas. Enfin, il y a peu de gens ici qui peuvent se positionner pour avoir ces trucs-là. Et puis, c'est dans des espaces ou dans des lieux tellement grands et tellement centrales que les gens ont peut-être pas envie de se positionner là-dessus, tout simplement.
Le météore, je crois qu'il a fait un. Je suis pas sûre, tu vois. Et après, il y a toujours des rumeurs, et je vais pas demander exactement. Mais le météore, on m'a dit que c'était un. Il y a le météore qui fait un partenariat avec Franck Meunier, parce que je crois que c'est 4 millions
Ah oui,
le
mais
local.
t'en as plein, à mon avis, hein, des très gros restos niveau coût à Strasbourg. T'as des grosses enseignes quand même, hein. Enfin, t'as des grosses usines, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Storck, c'est un énorme truc, le Cordalinge, c'est un énorme truc, la brasserie, enfin, t'as le Météor, t'as le Tigre qui est énorme aussi, enfin, franchement, t'as des très très grosses institutions. Mais ce que je trouve vraiment bien, c'est que les gens sortent et que c'est quand même plein. Tu vois, je trouve que le risque quand tu fais des gros trucs comme ça à Strasbourg, c'est que t'es des bars vides. Mais en fait, je trouve qu'à Strasbourg, c'est toujours plein.
Ah,
Alors
c'est fou, je
franchement,
sais pas d'où ils
c'est...
viennent les gens, hein, mais c'est plein.
Ouais, c'est top.
Là, au marché de Noël, on va encore rigoler. Parce que je me dis, Strasbourg va prendre un fois deux.
Ouais,
Bon, c'est le jeu. Hein.
c'est notre vitrine, il faut en profiter.
C'est ça, c'est vraiment. C'est pour ça qu'on est connu, quoi.
Ouais, c'est en partie pour ça qu'on est connu. Et puis après, c'est. Ouais, on a de la chance, moi, je trouve. Je trouve ça, il y a toujours un petit côté féerique. Franchement, c'est toujours un plaisir. Alors, oui, tu peux toujours te plaindre, te dire qu'il y a trop de touristes, etc. Mais je veux dire, s'il y a des touristes, ça fait marcher aussi l'activité économique de la ville. Ça fait marcher les hôtels qui ont souffert pendant ces dernières années. Ça aide les restos, les bars. Ça va aider toute une partie économique de la ville. Donc, pour moi, il faut en profiter. Enfin, voilà. Les gens qui veulent pas sortir ou pas se balader, ben tant pis, ils ressortiront en janvier. Mais au moins, on a de la chance pour avoir un petit peu bougé. Franchement, quand tu reviens et que c'est la période de Noël, c'est quand même un plaisir de faire visiter la ville à des proches. C'est quand même un plaisir voilà, d'aller se balader en ville. Et on a de la chance pour ça, quoi.
Ouais, ça va être magique et en janvier ça va être morose, ça va être gris, ça va
Ouais,
être
c'est jamais
triste à
morose,
côté.
Strasbourg.
Oh, en janvier, ouais. Mais tu vois, genre le dimanche, il y a vraiment personne dans les rues, c'est calme et tout. C'est trop bizarre, ça vraiment,
Ouais.
c'est horaire, tu vois, chez nous.
Bah c'est... Je sais pas pourquoi, tu vois. Je pense que... Bon déjà, t'as tout qui est fermé, mais je pense que c'est aussi assez familial comme région ou comme tradition. Et du coup, je pense que t'as beaucoup de gens qui le dimanche sont en famille. Et je pense que du coup, enfin, moi je vais souvent me balader le dimanche après, mais c'est vrai que t'as pas grand monde dans les rues. Ça fait un peu mort, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Là, franchement, le samedi soir c'est plein, le samedi c'est plein, le vendredi c'est plein. Donc,
Le
un
jeudi,
jour de repos, c'est pas grave.
c'est du jeudi,
Ouais, c'est tout le
jeudi au
temps. Franchement, il
samedi.
y a beaucoup de gens. On peut pas se plaindre que ce soit une ville fantôme ou autre. Donc, c'est tout l'inverse. Donc, un petit jour comme ça, c'est pas très grave.
Donc toi, entre quand t'es parti et t'es revenu, il y a
Ouais,
eu
moi je trouve qu'il y a eu
un
un vrai
gap.
changement.
Ouais.
Je trouve que ça a commencé à. Il y a eu de plus en plus de projets indépendants. Il y a eu beaucoup plus de choses qui sont un petit peu démocratisées, et je trouve que c'est... Pour moi, j'étais ultra content. C'est ce que je craignais un petit peu, de m'ennuyer, entre guillemets, en sortant de Paris. Je me suis dit, tiens, je vais revenir à Strasbourg, c'est un peu plus petit, peut-être ça bouge un peu moins. Franchement, tout l'inverse, tout l'inverse.
Donc tu penses que c'est une ville où on peut entreprendre?
Ouais, je pense que c'est une ville où il faut entreprendre. C'est une ville où on a de la chance d'avoir encore quelques locaux en marge de Strasbourg, là où on est nous, au port du Rhin. T'en as encore un petit peu, voilà, t'as d'autres zones industrielles un petit peu en bordure de Strasbourg. Et je trouve qu'il y a de la place il y a de la place pour mettre des choses encore là-bas. Hein. Il y a énormément de place.
Mais Port du Rhin, ils sont en train de tout refaire, la COP et
Mais
tout. Je
ouais,
me
mais
dis, ça va être
c'est bien.
grandiose.
Ouais, franchement, c'est bien. Il y a plein de petits projets qui se lancent là-bas. C'est une zone qui va bouger. C'était une zone qui était un peu mise de côté pendant longtemps. Et en fait, les gens, ils se rendent compte que c'est à côté de Strasbourg, que voilà, ça se développe. Et on verra ce que ça donne avec les habitations. Mais enfin, moi, franchement, je suis trop content d'avoir l'atelier là-bas. On est trop content. C'est top. Ça fait un petit peu esprit village juste à côté de Strasbourg. Tu vois, il y a de la place, on est tranquille.
Il
C'est
bah, y a
top.
Omnino aussi qui sont
T'as
là-bas.
plein d'énormes boîtes hein, au port du
Ouais.
Rhin. T'as des énormes boîtes qui sont là depuis énormément d'années. Et t'as aussi plein de choses qui vont rajouter dans la COP. Alors je connais pas tous les acteurs qu'il va y avoir à l'intérieur, mais ça va être un énorme truc.
J'ai hâte, moi, de voir ça parce que j'adore le coin. Après, y habiter, peut-être pas. Mais Jardin des Deux Rives, même
Ouais.
quai, etc. C'est trop stylé là-bas.
Ouais, mais t'en as plein. T'en as pas que là-bas, t'en as tout aux alentours de Strasbourg. T'as plein de zones comme ça qui vont, à mon avis, dans les années futures, vont se développer.
Voir ce que ça donne. Et on va passer à la meilleure partie. Alors moi, je veux savoir quel est ton plus grand défaut.
Alors, mon plus grand défaut, je pense que si de temps en temps, j'ai un petit peu un manque de tact. Je suis assez cash.
D'Alsacien.
Hein?
D'Alsacien, tu
Ouais,
vois.
c'est ce que je veux dire à Yann, celui qui me le dit tout le temps. Non, mais en fait, j'ai de temps en temps, je vais dire les choses de manière peut-être un petit peu crue ou au moins un petit peu directe. Et du coup, il y a des personnes avec qui je vais super bien m'entendre parce qu'ils ont un petit peu la même manière de communiquer. Donc en fait, on va parler sans se prendre la tête, mais ça va être direct. Et puis il y a des personnes qui vont peut-être un petit peu plus se braquer ou autre. Mais voilà, je fais des efforts au quotidien.
Je vis le même problème que toi.
Ouais.
C'est, tu vois, emballer ce que tu racontes à chaque
Mais
fois, mettre des rondeurs et tout, oui.
c'est bien, avec Yann, on est complémentaires là-dessus. C'est lui, il est plus là pour mettre les rondeurs.
Il en faut un. parce que sinon ça va être trop clivant et c'est compliqué. Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte?
Alors moi, je déteste faire les colis. Je sais pas pourquoi. C'est un truc. Je déteste faire ça. Je déteste faire les colis et je déteste relancer les gens qui payent pas. C'est un truc. Ça me. Je comprends pas en fait. Ouais, je comprends pas. C'est voilà. Mais surtout, allez. Ouais, surtout les colis. Mais je sais pas pourquoi.
Bah,
C'est
c'est chiant.
pourtant. Ouais, mais tu vois, il y a d'autres trucs qu'on fait où c'est aussi des tâches un petit peu redondantes ou autres. Quand t'es chenille 100 fois la même chose dans la journée, c'est pas forcément. Mais avec un peu de musique et en bonne compagnie, ça passe toujours bien. Mais les colis, je sais pas, ça me saoule.
T'as pas délégué?
Ben, de temps en temps, si, on le fait quand même. On le fait quand même parce qu'il y en a d'autres, tu vois, à qui ça va saouler, faire des impressions par exemple sur foncé. Du coup, moi je les prends et lui va faire les colis. Et ouais, on essaye de faire en sorte de pas trop faire de trucs qui nous saoulent.
Donc tu m'as dit que t'as pas d'anecdote honteuse ou marrante?
Non.
Non.
Non, franchement.
Alors t'as essayé de trouver avec ton équipe?
On a essayé, on s'est mis à 4 hier pour essayer de trouver. Même je me suis dit, vas-y, si c'est une à toi, je vais dire que c'est moi, etc. Mais franchement, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé.
Donc c'est soit vous avez pas du tout d'anecdote honteuse, ou soit vous les avez pas vues, quoi.
Ouais, ce qui est pas forcément rassurant non plus,
Non, ou t'en fous, tu vois.
mais. Ouais, non, franchement, j'ai pas d'anecdote honteuse qui s'est passée depuis le truc du projet. Marrante, ouais, on a dû sûrement en avoir plein au début. Surtout déjà avec le local. Si maintenant tu retrouves le local dans lequel on était et que tu te dis, enfin, tu te dis, c'est pas possible, ils n'ont pas fait ça là-dedans. Il y a plein de trucs comme ça, à mon avis, qu'on a dû faire. Mais en fait, on s'est tellement pas pris la tête, on l'a tellement fait de manière sereine et genre en bonne amitié, en bonne tranquillité, qu'en fait, on s'est pas trop pris la tête, j'avoue, sur l'avancée du projet.
Ouais, je pense que les 20 mètres carrés, tu vois, ça peut être une
Ça
bonne aide.
forge, ça. Si tu sors de 20 mètres carrés, après, t'as deux fenêtres, t'as 50 mètres carrés, c'est le luxe.
T'as dû te poser en mode, oh, c'est le paradis.
Ouais, c'est ça. Franchement, quand on est revenu dans le local, on s'est dit, si on prend pas ce truc-là, on est con, on prendra jamais rien, quoi. Il faut qu'on le prenne maintenant. Et heureusement, d'ailleurs.
Mais c'est le premier local que vous avez vu, vous l'avez
Non,
pris?
on a failli signer un autre truc à Chilic. Et heureusement qu'on l'a pas fait. Parce que je pense que c'était pas du tout adapté. C'était au premier étage et tout. Et mine de rien, nous, on fait assez pas mal de boucan avec les machines. Et il y avait d'autres personnes à côté et tout. C'était au fond d'un couloir avec les livraisons. Ça aurait été un enfer. Je sais même pas comment on aurait monté les machines. Parce que la dernière machine, elle fait 1 tonne. Du coup, tu peux même pas la porter à 4. Enfin, il fallait un Fenwick pour la lever, pour la mettre dans la. Franchement, je sais pas comment on aurait fait. Et en fait, par hasard, on est tombé. La veille, hein, la veille de signer le local là, chic, on est allé sur le bon coin et on a trouvé ce truc-là. Le lendemain, on l'a visité, on l'a pris.
Mais c'est fou, par hasard, t'as
Ouais,
cherché?
je sais même pas, la dernière fois, on en reparlait encore, je sais même pas comment ça se fait qu'on se soit mis à rechercher. Tu vois, on était la veille de re-signer le truc, je pense qu'on devait peut-être pas être convaincu à 100%. Et du coup, on l'a pas fait. Et on regarde sur le bon coin, on voit ce truc-là. Super bon feeling avec la proprio. C'est des tailleurs de pierre, des ateliers de tailleurs de pierre qu'il y avait au port du Rhin. Et en fait, ouais, on est tombé amoureux du local, on l'a pris, on savait qu'on serait en bonne compagnie là-bas, tranquille, c'est une entrée indépendante, il y a une cour et tout. Et le lendemain, c'était signé. Et un an après, on a repris celui de la voisine, quoi. Mais ouais, hasard, je sais
Ouais,
pas.
ou feeling.
Ouais, je pense que c'est encore une fois ce que je te disais avant, c'est qu'on s'est jamais trop précipité. Tu vois, s'il y avait un truc qu'on sentait pas à 1000%, on le faisait pas en fait. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a continué à regarder par hasard, quoi.
Mais en se disant, peut-être pas en fait.
Ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être qu'il faut peut-être aller voir un peu plus loin.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Il y en a plein, mais je pense que déjà, moi, de base, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est quand tu fais quelque chose, surtout tu le fais jusqu'au bout. Que ça marche ou que ça marche pas, il faut que tu le fasses jusqu'au bout. Parce que si tu t'arrêtes en chemin, ou si tu te dis, ok, bon, bah non, ça va pas marcher, et mais que t'as pas poussé le truc jusqu'à son terme, en fait, tu sauras jamais. Donc déjà, si tu fais un truc, il faut le faire à 100%, il faut le faire jusqu'au bout. Et le deuxième, je pense que c'est, ouais, entoure-toi de personnes critiques, qui vont un petit peu te bousculer, te remettre en question, qui vont te faire peut-être douter ou autre, mais toujours un petit peu dans la bienveillance, mais des critiques quand même, parce que je pense que c'est ça qui te permet d'avancer derrière. Donc à 100% et surtout pas lâcher quoi. Pas lâcher. L'échec c'est. On s'en fout que tu échoues 10 fois si tu réussis la 11e. On va juste se souvenir que tu as réussi à la 11e. Par contre la personne qui arrête à la 7e fois, ben, il finira sur un échec. Et ça psychologiquement c'est super dur. Faut surtout pas arrêter avant de réussir.
Et quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer?
Ouais, je te conseillerais. Tu l'as dit avant, Caro. Peut-être, je pense que ça peut te. Je pense que ça te ferait énormément plaisir. Et je pense que on a rencontré une personne qui a un parcours assez incroyable. Il n'y a pas longtemps, on a fait une collab avec elle. C'est Julie de l'atelier Boketo. Je sais pas si tu vois. En fait, elle fait des couvre-chefs faits main à Strasbourg. Elle a son compte depuis pas si longtemps que ça. Et c'est quelqu'un qui a tout quitté pour se mettre à son compte, pareil, faire des couvre-chefs. Elle a un parcours. On la connaît pas énormément, mais je pense qu'elle a un parcours incroyable.
D'accord, ça a l'air
Voilà.
dingue.
Ouais, je te l'ai bien teasé.
Bon, j'essaierai de la contacter de votre part ou si tu as
Ouais, tu peux le
son mail.
contacter de notre
Ouais.
part.
Ok. Merci Mathieu d'avoir participé
Eh
à mon
bien, merci
podcast.
à toi.